Merci à la famille Aubin. C'était très bien. Merci beaucoup. On ne sait pas les efforts que ça a, hein, que ça fait, représente, chanter en public. Quand on le fait une couple de fois, on le sait après. Eh bien, quelquefois, il arrive qu'on a des demandes. On demande de prier pour telle chose, telle chose. Ce soir, j'ai des actions de grâce. J'ai marié ma fille hier. Moi, c'était hier. J'ai marié ma fille, ma dernière, ma plus jeune. C'était un beau mariage. Quelques personnes sont ici, l'ont vu. C'était un beau mariage. J'ai bien aimé. C'est un témoignage. Naturellement, la famille du marié, c'est des inconvertis. Beaucoup d'amis qui étaient là, qui étaient même plus qu'inconvertis. Et ça a été... C'était un beau témoignage de voir une famille unie. C'était bien. On a beaucoup apprécié. Et maintenant, nous allons vivre tranquillement, moi et mon épouse, le nid vide. Je dis à ma fille, je dis, avant, ce n'était qu'un rêve. Maintenant, c'est la réalité. Quand, cet après-midi, on était tout seul, moi et Hélène, dans la maison. Puis là, je lâche un grand cri dans la maison. Je dis, ah, je n'ai pas dérangé personne. Bien. Oh, le son remonté. Non, c'est moi qui ai trop parlé. Bien. Le titre du message ce soir, c'est la valeur de l'obéissance pour Dieu. L'obéissance a une certaine valeur. On peut parler de l'or qui a une valeur, on peut parler de l'argent qui en a une autre, mais on peut parler aussi de la patience qui a une valeur et l'obéissance qui a une valeur. Naturellement, s'il y a une valeur, à sens inverse, lorsqu'il y a désobéissance, il y a des conséquences, étant donné que la valeur n'est plus là. Comme si j'ai 1000 $ en or, j'ai une valeur. Si je ne l'ai pas, bien, je suis pauvre. Eh bien, si je suis obéissant pour Dieu, il y a des conséquences. Mais si je ne le suis pas, il y en a autant des conséquences. Et j'aimerais prendre, pour expliquer l'obéissance, prendre un exemple de désobéissance. Ça va être logique. J'aimerais que vous tourniez dans 1 Samuel, au chapitre 13, et on va lire du verset 1 à 4, s'il vous plaît. C'est le roi Saül, qui était reconnu pour être un très, très bon roi. Le premier, d'ailleurs, le roi Saül, qui précédait David. Et j'aimerais qu'on regarde comment ce qui en est arrivé, lui, à être désobéissant, et les conséquences qui est arrivé par la suite. 1 Samuel, chapitre 13, verset 1, dit « Saül était âgé de 3 petits points à 1 lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la route de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Geba, et les Philistins l'apprirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit ce que l'on disait, Saül a battu le poste des Philistins, et Israël sera odieux aux Philistins, et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. » J'aimerais qu'on regarde jusqu'au verset 14, excusez. Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Il avait 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Haven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et Galaad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi à l'Holocauste, amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'Holocauste. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici, Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait? » Saul répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au temps fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, « Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » Samuel dit à Saul, « Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » J'aimerais qu'on regarde un peu plus loin dans les chapitres 15 et le verset 3. Et c'est la deuxième mission que Saül a à faire. « Va maintenant, frappe Amalek, et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, tu ne feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Probablement, s'il y avait eu des poules, il l'aurait mentionné, tellement qu'il est précis. Et du verset 9, et on part à partir du verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, qui est le roi, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour un roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Et on va passer au verset 19, où ce qu'il explique, ça ne sert à rien de tout lire ça parce que ça va être trop long. Et au verset 19, il dit, « Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui avait été dévoué, afin que les sacrifiés à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'Holocauste et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi comme roi. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Lorsque vous faites un message avec un thème comme la désobéissance ou l'obéissance, vous allez voir les citations. Moi, j'aime voir les citations, voir qu'est-ce que c'est la désobéissance et l'obéissance. Et j'en ai retenu quelques-unes, mais une en particulier que j'ai retenue, c'est un médecin qui n'a pas fait une étude très exhaustive, mais son expérience l'amenait à voir, puis il disait que, en général, un enfant obéissant a 4 fois plus de chances de guérir d'une maladie qu'un enfant gâté et indiscipliné. Un enfant obéissant a 4 fois plus de chances de guérir d'une maladie. À ce temps, si vous avez un jour des enfants, retenez ça. Et un enfant obéissant est beaucoup plus facile à soigner. Donc, un principe d'obéissance qui est général, autant pour les enfants que pour les adultes. Mais comment est-ce qu'on en vient à obéir? Comment est-ce qu'on réussit à obéir? Il y Il y a trois étapes à faire importantes à l'obéissance. Premièrement, bien saisir les ordres. Okay? Si je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas condamner de désobéissance, je ne sais pas quoi faire. Donc, si j'ai des ordres précis, si je les comprends bien, je devrais passer à la deuxième étape, qui est être résolu de faire les choses qui m'ont été dites. Même si ça ne fait pas mon affaire. Je suis résolu à obéir à ce que je viens de lire ou à ce qu'on vient de me dire. Et finalement, la troisième étape, c'est persévérer dans cette résolution-là. Si on regarde le premier principe, qui est de saisir les ordres, de bien comprendre qu'est-ce qui est... C'est une étape qui est importante. Puis c'est la plus facile dans un certain sens. Les ordres, ils sont clairs dans la parole de Dieu, lorsque vous la lisez. C'est sûr que ces principes-là nous sont révélés. L'Esprit nous la révèle. Lorsque nous lisons, ce que nous comprenons de la parole de Dieu, c'est l'Esprit qui nous le révèle. Si je comprends, c'est parce que l'Esprit m'a parlé. Mais l'Esprit ne peut pas me rappeler quelque chose que je n'ai jamais lu. C'est clair. Vous vous rappelez que je vous ai dit quelque chose hier? Non, je ne t'ai jamais vu hier. Il va d'abord falloir que vous soyez au courant de l'ordre pour que l'Esprit vous le rappelle. Et quelquefois, il faut lire plusieurs fois. Mais assurément, il est important de bien comprendre ce que la parole de Dieu dit. Et voilà une importance capitale de lire sa parole pour bien comprendre, pour bien obéir. Même celui qui ne lit pas, il est très conscient qui désobéit à l'ordre de Dieu, d'avoir la connaissance de Dieu. Celui qui ne lit pas, il va dire, « Ah, ben, j'ai pas pu obéir, j'ai pas lu. » Tu as déjà désobéi de ne pas avoir lu. C'est clair. Essaye pas de t'en échapper. Tu as déjà désobéi à ça. Et celui qui ne lit pas, sa croissance, son jugement et son service sont compromis. Je veux te servir, Seigneur. Ma Bible, il y a à peu près 2 pouces de poussière dessus, mais je veux te servir. Tu vas être utile à quoi, là, si tu ne sais pas de quoi tu t'en vas? Vous voulez servir le Seigneur? Vous voulez être au service du Seigneur? Voilà ce qui est important, qu'il faut que vous lisiez. Mais celui qui lit a les instructions de Dieu face à sa vie. Et il y a des instructions très précises. Dieu lui parle, lui adresse ses instructions dans le seul but qu'il devienne semblable à Christ. Et ce qu'il va dire à Pierre, ou ce qu'il va dire à Alain, ou ce qu'il va dire à Trevor, ne sera pas la même chose que ce qu'il va dire à moi. Parce que nous sommes 4 hommes différents. Et pour les femmes, c'est la même affaire. Donc, il ne dira pas la même chose qu'il va dire à Alain. Il va dire d'autres choses à Alain. C'est un autre modèle, ça. Et il va nous parler à nous, directement par sa parole. Et si on crie à Dieu pour être transformé, il va répondre. Avez-vous déjà demandé à Dieu la patience? Seigneur, je veux être patient. Ou j'ai arrêté de demander ça. Et je dis, Seigneur, donne-moi la patience, mais fais vite. Hein? Vous la savez, celle-là? Moi, de la patience, mais fais ça vite. Si vous vous demandez qu'est-ce que je devrais faire dans telle ou telle circonstance, ou si vous ne savez pas, vous allez voir quelqu'un de confiance, vous dites, qu'est-ce que je devrais faire? Je ne sais pas, je te demande conseil. Ou si vous allez voir 10 personnes, la réponse devra toujours venir de la parole de Dieu. La personne qui va vous dire, ouais, d'après les étoiles, t'es Sagittaire ascendant, je ne sais pas quoi, là. Mettez-les de côté. La réponse vient de la parole de Dieu. Bien comprendre les instructions. Dans les situations qui nous servent d'exemple, Saül sait très bien ce qu'il a à faire. Dans le premier cas du chapitre 13, il n'est pas capable d'attendre. Il est incapable d'attendre le temps de Dieu. La pression autour de lui, les soldats qui s'éliminent les uns après les autres. C'est comme le gars qui s'en va devant dans l'armée, il dit, OK, on va enfoncer, il servir de bord, puis il est tout seul, tu sais. Ouf. Puis là, tout le monde s'en va, puis il commence à paniquer un peu. Et dans le deuxième exemple, Saül prend l'initiative. Il désobéit carrément. Il a décidé qu'il sait mieux que Dieu qu'est-ce qu'il a à faire avec le troupeau qui est en face de lui et même le roi qui est en face de lui. Absolument, c'est dirigé dans sa tête pour un but qui n'est pas selon la gloire de Dieu. Comme pour Saül, la volonté de Dieu pour nos vies nous est seulement révélée, nous est souvent très bien révélée. Quelquefois, il attend. Mais souvent, la volonté de Dieu nous est révélée. Peut-être qu'on ne veut pas la voir. Ça arrive. Ou on n'est pas prêt à attendre. Mais la volonté de Dieu nous est révélée. Et puis, comme tout le monde, j'ai demandé à Dieu des réponses à des questions. Puis Dieu ne parlait pas. Puis je dis, voyons donc, peut-être que c'est ça, cette affaire-là. Pourquoi que Dieu ne répond pas à mes prières? Pourquoi Dieu ne répond pas à ce que je lui demande? Puis il est venu à la pensée que le grand Dieu de l'univers, celui qui maintient les astres, celui qui fait que la Terre pivote très régulièrement, je suis convaincu que demain matin, le soleil va se lever. Et puis ils sont même capables de dire quelle heure. Dieu tient les choses régulièrement. Puis c'est Dieu qui maintient ça. Et j'avais une histoire d'un homme qui disait qu'il ne comprenait pas pourquoi que l'électron qui tourne autour du noyau, de l'atome, comment ça se fait qu'il à force, la force centrifuge ne l'emmène pas à s'échapper? Pourquoi que le cercle se tient toujours sur l'atome? Et puis les scientifiques, ils appellent ça la glue atomique. Et cet homme-là, il dit, moi, j'appelle ça Jésus-Christ. C'est ce grand Dieu-là qui maintient l'univers ensemble, puis il ne serait pas capable de me répondre. Ah non, non, il est capable de me répondre. C'est peut-être moi qui entends mal. Ou c'est peut-être moi qui a à attendre sa réponse. Mais c'est sûr que Dieu a une réponse pour moi. Et la lecture de la parole devrait provoquer en moi cette recherche de la volonté de Dieu. Parce qu'elle était conçue pour ça. Lorsque je lis le journal, lorsque je ferme mon journal, c'est fini, on n'appelle plus. Il y a peut-être quelqu'un qui va m'en parler à la fin de la journée, t'as-tu lu telle affaire? Oh, ça ne me touche pas. Mais lorsque j'ouvre la parole de Dieu et que je lis les textes, ça devrait me toucher. Ça devrait transformer ma vie. Et il devrait avoir dans mon cœur cette recherche-là de volonté de Dieu, d'obéissance. C'est le Seigneur qui dit, celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Donc, celui qui cherche, trouve. Dieu ne répond pas. Attends, le temps de Dieu n'est peut-être pas arrivé. Dans notre situation, Saül n'a absolument pas le droit de faire le sacrifice. C'est terrible ce qu'il va faire là. Car c'est un ordre de Dieu précis. Toutes les raisons au monde n'ont aucune valeur pour désobéir, surtout pour un roi. Ça a les rois. L'autorité dans son domaine. Il est capable et il doit être un leader spirituel, un leader pour son peuple, un leader physique. Il doit être capable de dire à son peuple, vous faites, vous ne faites pas. C'est lui qui est roi. Mais lui-même prend la mauvaise initiative et il désobéit. Et d'autant plus que Saül est le premier roi. Donc, il devrait établir comment devrait se faire la royauté dans son pays. Rendu au centième roi, ils le savent. Mais le premier, comment c'est quoi la royauté? Et Saül établit cela. Voyez-vous l'importance que Saül devait d'obéir à Dieu? Et Saül connaît aussi, dans le deuxième exemple qu'on a apporté, il connaît le terme dévoué par interdit. Le terme dévoué par interdit, c'est anéantir, complètement détruire, brûler et rien d'autre que brûler et anéantir. Et s'il disait que tout devait être dévoué par interdit, et c'était tout devait être dévoué par interdit, tu ne gardes rien. C'était important pour Dieu l'obéissance, surtout de ce roi-là. Mais la désobéissance de Saül entraîne le peuple même à mépriser l'ordre de Dieu. La désobéissance entraîne à la désobéissance. Ça vous est sûrement arrivé, ça m'est arrivé à moi. On finit à 4 heures. Puis il est 4 heures moins quart. Là, il y en a un qui dit: ah, moi, je suis tanné, je m'en vais. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Ah, ben moi aussi de bord. La désobéissance entraîne à la désobéissance. On n'a pas le droit de toucher à ça, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. J'en prends moi aussi, j'en prends moi aussi, j'en prends moi aussi. La désobéissance entraîne à la désobéissance. Comme le roi Saül a désobéi, le reste du peuple a suivi. Les deux erreurs de Saül lui ont coûté son règne. La première erreur, c'est qu'il n'a pas pu attendre le temps de Dieu. Il n'a pas pu résister à la pression. Il était incapable de prendre les choses en main et de dire: non, 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 Dieu a demandé ça et c'est ça qu'on fait. Non, non. Il a paniqué. Il a fait le travail qui ne lui revenait pas. Même si vu de l'extérieur, ça paraît très bien, un homme qui fait des sacrifices, qui brûle des troupeaux, puis wow, hein, du beau bétail brûlé comme ça, puis wow, il est saint ce gars-là. Non, c'est pas ça Dieu. Il désobéit, même s'il travaille pour Dieu. Même si je fais de grandes choses pour Dieu, si c'est pas ma job, Dieu n'accepte pas cela. Mais Saül devait faire quelque chose. N'importe quoi, mais il faut qu'il fasse de quoi. Il ne peut pas attendre le temps de Dieu. Il panique. Le monde s'en va, son armée se dissimule. Mais il n'avait pas besoin d'une si grande armée que ça. Il y avait un exemple devant lui, c'est-à-dire avant lui, Gédéon, qui a conquis un peuple avec 300 hommes. Il avait la capacité, il avait les exemples devant lui, avec peu d'hommes, conquérir s'il avait mis sa confiance en Dieu. Mais on peut s'imaginer Saül en train de réfléchir, puis oh, Dieu ne comprend pas ma situation. Dieu ne sait pas ce que je vis. Ou ouais, mes plans ne se réalisent pas comme je l'avais prévu. Moi, j'avais prévu ça, j'avais prévu que j'attaquais, j'avais prévu que... Puis c'est pas comme ça que ça se passe. Ah non, non, ça c'est... Ou pour qui je vais passer à attendre comme ça? Hein? C'est pas mon autorité. Puis... Je vis des heures difficiles, puis Dieu semble pas comprendre ce que je vis. Il est tellement loin. Est-ce que c'est Dieu qui est loin? Ou si c'est les pensées de Saül? Saül a passé un test qui a malheureusement échoué. Puis Saül, ce n'est pas le premier serviteur à passer le test de l'attente. Hein? On est très conscient de ça. Vous vous rappelez Joseph en prison, où ce qu'il a prédit aux échansons du roi, qui était pour que le roi était pour le remettre en service. Puis il a dit à l'échanson, il dit: quand tu vas revenir avec le roi, tu veux-tu glisser un mot pour moi, pour qu'il me sorte de là? Là puis... Eh bien, Joseph a attendu 2 ans. Joseph a attendu 2 ans en prison que les chansons se rappellent de lui. Ça, c'est de l'attente, ça. J'imagine que Joseph a dû pogner des dents. Hein? Mais l'histoire ne dit pas si Joseph a viré son capot de bord. Joseph a resté fidèle à Dieu. Abraham, lorsqu'il attendait sa progéniture, il savait qu'il était pour avoir une progéniture. Il a tout essayé. Et Dieu dit: non, 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 attends. Et même lorsqu'il n'y avait plus d'espoir, attends. Ou Moïse, Il a demandé qu'il libère son peuple d'Égypte. Il l'a envoyé 40 ans à l'école de Dieu pour qu'il soit formé. 40 ans d'attente. Et Dieu demandait à Saül d'attendre jusqu'à la fin de la 7e journée, ce qu'il n'a pas pu faire. Il a échoué le test de l'attente. Dieu fait encore aujourd'hui des tests avec ses serviteurs. Dieu travaille encore de cette manière-là. Parfois, lorsque Dieu nous fait attendre, on a l'impression d'être mis sur la voie d'évitement. On a l'impression que Dieu ne nous parle plus, qu'on n'est plus bon. Mais Dieu nous montre comment attendre. Dieu nous montre que son heure est et sera toujours la meilleure. Ce n'est pas notre heure, ce n'est pas notre décision. C'est la décision de Dieu. Peut-être que vous vivez une situation d'attente dans votre vie. C'est possible, ça. Ça m'est arrivé à moi et ça arrive à n'importe qui. Peut-être que c'est ce que Dieu vous demande de ne rien faire, d'attendre son temps, d'attendre son heure, d'espérer en lui. Parce qu'à travers l'obéissance, Dieu aurait pu raffermir le règne de Saül. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit au verset 13, du chapitre 13. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » On n'a pas de règne, nous, mais on a des ministères. Et Dieu peut affermir notre ministère, notre service pour Dieu à travers l'obéissance. Dieu peut l'affermir. Et déjà là, on a une valeur de l'obéissance. En étant obéissant, Dieu affermit notre ministère, affermit notre service pour Dieu. Parce que lorsque nous sommes désobéissants, comment peut-on faire confiance? Après-demain, je vais prendre une nouvelle cohorte de jeunes étudiants qui vont arriver chez nous, que je vais former pendant 2 ans, pour qu'ils en fassent des mécaniciens. Et souvent, les jeunes arrivent et disent, « Bon, c'est quand qu'on défait un moteur, là? » Oh! Ben, le moteur qui vaut 25 000 $, on va attendre un peu. On va commencer par limer. Mais que tu saches limer, on fera d'autres choses. Oh! Si tu sais limer, on fera d'autres choses. Mais si tu ne sais pas limer, on va attendre que tu saches. Oh. Dieu agit la même chose avec nous. Il veut qu'on commence pour le début. Et parfois, les leçons prennent du temps à rentrer parce qu'on est pécheurs et nous avons besoin de cette période d'attente. Et Dieu peut raffermir ce que nous faisons, notre service pour lui. Dieu permet à Saül de se racheter. Il lui donne une deuxième chance. OK? Tu vas aller attaquer les Amalécites. Tu vas les exterminer du premier jusqu'au dernier, hommes, femmes, enfants, bétail, tout. Tu les élimines. Alors, c'était les ennemis jurés. Ils avaient attaqué Israël lorsqu'ils voulaient rentrer en terre promise. Et ils avaient attaqué hypocritement par derrière, ils attaquaient les plus faibles. Et Dieu avait décidé, dans sa souveraineté, d'éliminer ce peuple. C'est lui qui est boss et c'est lui qui décide. On peut contester, mais Dieu dit non, c'est comme ça. Mais Saül, même si Dieu avait toutes les raisons de ne pas donner une deuxième chance à Saül parce qu'il savait qu'il était pour échouer finalement, Dieu qui sait tout. Il a quand même donné une deuxième chance à Saül, mais non. Saül ne l'a pas pris. Il a délibérément désobéi à Dieu qui demandait une chose fort simple. Tu détruis ce peuple-là. Tu as la capacité, tu as les hommes pour le faire, tu as les possibilités, tu as tout pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de dévouer par interdit. Qu'est-ce qu'il fait? Il épargne le roi Agag. Pourquoi le roi? Parce qu'il pouvait se permettre de dire, « Ah, je suis vainqueur. J'ai eu le roi. » Il pouvait l'emmener enchaîné dans la ville en disant, « Regardez, je suis victorieux. » Et finalement, une vieille coutume de ce temps-là, il pouvait enchaîner la personne qui avait battu, il la promenait dans la ville, puis l'humilier. Et on voit ça, ce comportement-là, lorsque Samuel, au chapitre 15, au verset 12, et au verset 12, il dit, il cherche, Samuel cherche Saül, et il dit, il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Il s'est érigé un monument, comme si c'était lui qui était vainqueur d'avoir abattu les Amalécites. Et même qu'il a désobéi à Dieu et il se croit encore vainqueur. Un péché ne vient jamais seul. La désobéissance, qu'est-ce qui suit? L'orgueil, et ainsi de suite. Il a gardé les meilleures têtes de bétail sous prétexte de les offrir en sacrifice à l'Éternel. Encore une menterie. Ça ressemble beaucoup plus à une défense devant la culpabilité qu'à une raison. De toute manière, Dieu n'avait jamais demandé ça. Dieu avait demandé une destruction totale. Et Samuel a défait ça. On a vu deux erreurs. On a vu qu'il n'avait pas su attendre le temps de Dieu, puis on a vu qu'il avait complètement désobéi à ce que Dieu demandait. Si on va un peu plus loin que ces deux erreurs-là, on verrait que Saül a décidé de prendre la place de Dieu sur le trône de sa vie. Il a proclamé qu'il était capable de contrôler sa destinée. Si Saül avait été capitaine de bateau, il dirait qu'il est le seul maître à bord et il oublierait de dire « après Dieu ». Dans notre vie, dans chacune de nos vies, dans la mienne, dans la vôtre, on a tous un trône. On a tous un siège, et dans ce siège-là, on met ce qui va régner dans notre vie. J'ai lu ça quelque part, j'ai trouvé que l'image était superbe. Pour le non-chrétien, c'est évident que c'est lui-même qui va être sur le trône, c'est sûr. Pour celui qui est endoctriné dans une secte, il peut même mettre son gourou sur ce trône-là. Puis le gourou va dire, fais ça, et il va le faire. D'après vous, qui devrait être assis sur le trône dans la vie d'un chrétien? Vous avez le droit de parler. Qui, d'après vous, devrait être assis sur le trône dans la vie d'un chrétien? Christ! Devrait être assis sur le trône. C'est lui qui devrait être à sa place. Mais Saül croyait qu'il était capable, lui, d'être assis sur le trône de sa vie et que Dieu était pour répondre à ses critères. Et lorsque nous désobéissons à Dieu, c'est ce que nous faisons. On passe au-dessus de la volonté de Dieu. On pense avoir le contrôle de notre destinée. Nos désirs priment sur la volonté de Dieu. C'est devenu plus important. Et finalement, nous nous assoyons sur le trône de notre vie et nous laissons Dieu à côté. Christ ne s'obstine pas. Si on veut s'asseoir sur le trône, il va nous laisser la place. Jusqu'à ce qu'on comprenne que ce n'est pas nous qui devons être là. Si on pense que désobéir à Dieu, ce n'est pas si grave que ça. Allez plus loin que l'action de désobéir. Regardez l'effet que ça fait dans votre cœur. Essayez de prendre les yeux de Dieu. Vous allez voir que si on a donné notre vie à Dieu, si un jour on a dit « Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie », vous savez ce que ça veut dire, Seigneur? Hein? C'est celui qui règne. Si on décide de désobéir à Dieu, à ce que Dieu nous dit dans sa parole, on vole Dieu. Parce que ça ne nous revient plus, c'est à lui. C'est Dieu qui règne dans nos vies. On pense bien souvent que désobéir, c'est dans les grandes choses. Je ne frapperai pas la personne que je déteste au travail ou dans ma cour, ou je ne volerai pas telle ou telle compagnie, ou des choses très graves, des choses importantes. Mais vous êtes-vous déjà examiné dans votre quotidien, dans les petites choses de la vie? Je l'ai fait. J'étais pas fier de moi. Puis j'ai dit, j'en ai trop pour les changer tout en même temps. Puis j'ai décidé d'en changer une. Je suis content parce que ça marche. Non? Je ne sais pas combien de temps, mais ça marche. Mon épouse disait, attends, tu chauffes trop vite. Elle avait raison. Et jusqu'à ce que je dise à un moment donné, bon, ben, je vais slacker la pédale, je vais ralentir. Parce que c'est ça, obéir à Dieu. Obéir aux autorités, c'est un commandement de Dieu. Et si j'obéis, si je le lis dans la parole, dans Romains 14, 15, je devrais respecter ça. Maintenant, je le sais. Lorsque je vais trop vite, je devrais désobéir à Dieu. Et lorsque je conduis ma voiture, je suis assis sur le trône. Pourtant, c'est Dieu qui va là, c'est pas moi. Laisse le trône à Dieu, puis toi, prends le steering. Puis conduis comme il faut. Des futilités, des niaiseries. Ah, oh, c'est pas grave. On a fait un voyage récemment aux États-Unis, et puis, quand vous passez sur... Ici, on n'a pas ça au Canada, là. Peut-être qu'on a ça au Canada, je ne me rappelle pas. Aux États-Unis, c'est flagrant, mais il y en a tellement. Ils disent 1 000 $ d'amende si tu jettes des choses par la fenêtre. Puis nous, on avait convenu il y a beaucoup, beaucoup d'années qu'on jetait seulement des choses biodégradables. OK? Des noyaux de pêche, des pelures de bananes, OK? Pas de papier, jamais. OK? Je lis compromis. Mais pour la loi, une pelure de banane, c'est pas des vidanges, ça? Oui. J'ai dit, quand j'ai considéré ça, j'ai dit, ouais, il faudrait que j'arrête ça aussi. Parce que la loi me le dit. Le Seigneur m'a donné ces deux petites victoires-là. Ça, je suis banal. Mais j'ai l'impression qu'il va m'en montrer d'autres, là. Une autre valeur de l'obéissance. Quand tu oublies quelque chose, le Seigneur te montre autre chose. Mais tant que tu n'oublieras pas, le Seigneur ne te montrera pas d'autre chose. Tu dois obéir à ce que je te demande si tu veux progresser. Mais voyez-vous, une autre valeur de l'obéissance, c'est que de savoir que je suis dans la volonté de Dieu, dans ces petites choses-là, ça réjouit mon cœur. Je suis content de cela. Puis je veux commencer, puis je veux recommencer, puis je veux continuer. Oh, je ne vous dis pas que je suis parfait, il se paraît. C'est pas que je dis, oh, je n'aurais pas dû faire ça. Je l'ai échappé, celle-là. Je te demande pardon. Mais je veux reprendre. Vous comprenez l'idée? Ce n'est pas la perfection. C'est de tendre vers la perfection de l'obéissance qui est important. C'est pas facile, l'obéissance. C'est vraiment pas facile. On a à comprendre les commandements de Dieu. On a à se résoudre fermement, à changer notre attitude de désobéissance dans le domaine que Dieu va nous montrer à chacun de nous dans nos cœurs. Puis il n'y a jamais personne qui est capable d'arriver à vous et de dire « Hey, t'es désobéissant. » Dieu va me le montrer. N'essayez pas de changer les autres. Changez-vous vous-même. C'est votre désobéissance qui est question. C'est pas celle des autres. Finalement, de persévérer dans cette résolution-là. Saül a bien commencé. Quand Samuel mentionne à Saül, au verset 17 du chapitre 15, il dit, Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, tu es devenu le chef des tribus d'Israël. » Et on citait au début qu'il a régné pendant 2 ans. Okay? Et là, il était question de passer à l'épreuve. Et cette épreuve-là, il ne l'a pas passée. Mais pendant ces 2 années qui ont commencé, il a eu le temps d'établir son règne, il a eu le temps de devenir un vrai roi. Mais maintenant, il était le temps de passer à l'épreuve. Et il a fait des compromis qui ne lui semblaient pas graves. Il n'a pas retenu ce qu'il a appris depuis sa tendre enfance. Il ne l'a pas compris. Il ne l'a pas retenu. Il ne s'est pas soucié que Dieu l'avait placé là. L'obéissance tient sa valeur de la constance et de la persévérance de celui qui obéit. À être constant et être persévérant dans l'obéissance. Si nous avons des rechutes, le pardon est divin et il est constant. Mais nous devons reprendre cette résolution d'obéissance constamment. Le prix de la désobéissance est extrêmement élevé. Dieu n'a pas affermi le royaume de Saül. Et même ce que l'on peut voir de la vie de Saül est une suite de règnes désastreux. Qu'est-ce que vous vous rappelez lorsque je dis Saül? Il a voulu tuer David. Il a piqué des colères incontrôlables. C'est un homme qui était fourbe. Il disait des choses, il ne les exécutait jamais. Il a pardonné souvent à David en parole, mais est-ce qu'il a posé aux actes? Jamais. Et David le savait. Il avait une réputation, Saül, d'un homme qui n'était pas intègre. Et bien le contraire. Mais tout cela a commencé par de la désobéissance. Si vous pensez que désobéir, ce n'est pas grave, eh bien, c'est une roue qui commence à tourner. Et c'est un chemin qui se fait. Si la désobéissance mène à ce chemin, je devrais m'en tenir le plus loin possible si je veux être un chrétien fidèle à Dieu. Si je suis prêt à en payer le prix. Parce que l'obéissance a aussi un prix. L'obéissance n'est pas populaire. Ce n'est pas quelque chose qui est très, très à la mode. Et lorsque vous obéissez à un ordre qui vous est donné. Il arrive souvent, vous dites, ouais, non, t'es donc bien moumoune, toi. Ça vous est jamais arrivé? Non, on m'a dit que c'était ça qu'il fallait que je fasse, que je vais faire ça. Ben voyons donc. Ben voyons donc. L'autre jour, à mon travail, ils nous ont donné un ordre. Il fallait avoir une formation qu'on n'a pas de besoin. On n'a absolument pas de besoin. Naturellement, tout le monde a contesté, puis tout le monde a dit, bon, ben, là, on n'a pas besoin de cette formation-là, c'est inutile de donner cette formation-là. Moi-même, j'ai dit ça aussi. J'ai dit, ouais, c'est un peu inutile, tu sais, c'est un peu inutile. J'ai parlé trop vite. Là, le boss s'en va. Puis là, je reste dans le bureau avec tout le monde. Hey, on va faire ça, puis on va faire ça, puis on va tout échouer. Puis on va. Là, les plans qui sortent de désobéissance. J'ai dit à un moment donné, j'ai dit, ouais, on va aller à la formation, on va voir ce qu'ils ont à dire. Tu sais.
Voyons donc, ils ont bien moumoune.
L'obéissance a un prix. Oui, elle a un prix dans le monde. Mais pour Dieu, ou rappelez-vous, quand un conducteur roule à la vitesse permise, juste à la vitesse permise, hein, c'est 5 km/h, puis c'est 5 km/h. C'est 90? C'est 90. Voyons, fatiguant. Non, ben, il ne va pas vite. Et il suit à la limite de vitesse. Non, 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 mais il retarde tout le monde, là. Il donne la permission de rouler à 110. Ah, c'est pour ça qu'il y a des crises de panneaux. Puis là, ils te font dépasser, puis quand ils passent, ils sont très polis, ils t'envoient la main. Ben, ils n'envoient pas tous les doigts, là, mais... J'espère que vous ne l'avez pas fait, ça, par exemple. Mais pour Dieu, l'obéissance rend un homme précieux pour son service. Un homme obéissant pour Dieu est précieux pour son service. Car c'est ce que Dieu recherche. Un homme obéissant. Un homme qui attend le temps de Dieu. Un homme qui exécute ce que Dieu demande dans les grandes choses. Oui, commencez pas à tuer le monde à côté parce que... Non, dans les grandes choses, dans les petites. Et lorsque Dieu vous le montre, il dit, oui Seigneur, je vais me plier. Je vais plier mon genou devant toi, puis je vais t'obéir. Un homme obéissant est précieux pour son service terrestre, et tout aussi précieux pour son service céleste. Des anges nous regardent et nous examinent. Et ils donnent gloire à Dieu lorsque c'est des enfants de Dieu qui obéissent à Dieu. Waouh, as-tu vu, garde, un serviteur de Dieu sur la terre qui obéit à son maître. Wow, quel grand Dieu on a. Regarde le serviteur de Dieu qui gueule après quelqu'un parce que... est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour ça? Un homme obéissant est un homme précieux pour Dieu, pour son service terrestre, pour son service céleste. Maintenant, la question de la fin, parce que toute bonne chose a une fin, quel chemin... Dans quel chemin voulez-vous marcher dans votre vie? Et c'est aujourd'hui que vous y répondez. Vous allez dire, ah, dans le chemin de l'obéissance, il vient de nous le dire. Maintenant, il vous reste à passer à l'action. À vous placer devant Dieu et dire, Seigneur, où est-ce que je suis désobéissant, que je devrais changer ma vie? Où? Montre-moi les petites choses dans ma vie qui font la différence entre un chrétien obéissant et un chrétien désobéissant. Je ne suis pas dans votre tête, je ne suis pas dans votre bureau, je ne suis pas dans votre char pour vous dire quoi faire. Dieu l'est, par contre. Et c'est à chacun de nous s'examiner. Merci, Seigneur, pour le fait que tu nous fasses comprendre les choses de la vie, que tu nous fasses comprendre, Seigneur, les valeurs. Le monde n'a pas ces valeurs. Le monde est perdu aussi. Nous avons d'autres valeurs. Nous avons un Dieu qui est droit, un Dieu qui est trois fois saint. J'aime bien cette phrase de Cantique qui dit « Je choisis d'être saint ». C'est un choix. Permets, Seigneur, que l'on fasse ce bon choix et qu'on soit conséquent avec ces choix. Qu'à tous les jours, qu'on puisse s'examiner, qu'on puisse dire « Non, ça, Seigneur, je ne veux pas faire ça, car je te désobéis. Je veux que tu sois sur le trône de ma vie. Je veux, Seigneur, que tu y règnes. Je veux que tu aies tous les droits. Je veux que tu croisses sur ce trône et que je diminue. Car c'est ta volonté. Et c'est là la bénédiction que tu en retireras, Seigneur. Et c'est là la gloire, ce pourquoi j'ai été sauvé, que tu auras. Merci, Seigneur, de me placer dans ce ministère d'obéissance. Merci, Seigneur, de m'emmener à voir plus loin que mon simple nombril. Mais de voir, Seigneur, ta grandeur, ta majesté et ton témoignage. Je te rends gloire de ce que tu as déjà fait dans ma vie et de ce que tu vas continuer à faire. Par le beau nom du Seigneur, Jésus-Christ. Amen.